Le traitement des mineurs non accompagnés dans les Hautes-Alpes est-il à revoir? Oui, selon un rapport d'Human Rights Watch, l'ONG qui organise d'ailleurs ce soir à Gap une table ronde. L'organisation non gouvernementale n'hésite pas à avancer des procédures défaillantes d'évaluation de l'âge ou encore du harcèlement de la part des forces de l'ordre. Bonjour, Bénédicte Janro.
Bonjour.
Vous êtes la directrice France d'Human Rights Watch. On va peut-être préciser rapidement les missions de votre ONG qui a été fondée en 1978 sous le nom de Helsinki Watch. À la base, c'était pour enquêter sur les violations des droits humains commises dans les pays signataires des accords de Helsinki. Depuis, vous avez conservé finalement cette mission première d'enquêter sur les violations des droits humains.
Oui, c'est ça. En fait, nous sommes une organisation internationale de défense des droits humains et notre principale activité consiste à enquêter, à mener des travaux de recherche extrêmement méticulés sur la question de violations à travers le monde. Donc, nous pouvons enquêter dans des contextes de conflit ou alors dans des contextes de très forte répression. Nous menons aussi des travaux en Europe de l'Ouest, donc notamment sur le territoire français, pour essayer de rendre visible un certain nombre de pratiques abusives. Et là, en l'occurrence, nous avons travaillé sur la question des enfants migrants non accompagnés. Et nous menons ce travail-là dans d'autres pays d'Europe ou d'origine, des pays d'origine de ces enfants. Donc, nous travaillons aussi en Libye, nous travaillons au Mali, nous travaillons au Burkina Faso, nous travaillons en Grèce, en Turquie. Et donc, nous pouvons nous prévaloir d'une vision assez large sur la question, notamment sur la problématique des migrations et du traitement des enfants migrants non accompagnés à travers le monde et à travers l'Union européenne.
Justement, vous l'avez souligné, les points de tension sont multiples dans le monde. Pourquoi vous vous êtes focalisé sur les Hautes-Alpes?
Alors, en fait, c'est la suite d'un travail que nous avons mené déjà en plusieurs volets sur la France. Nous étions intéressés, il y a 2 ans, à la situation des enfants migrants à Calais. Et nous avions rendu public un rapport sur la question des pratiques abusives de la part de la police, hein, sur des enfants, mais aussi sur des adultes d'ailleurs. Puis ensuite, nous nous étions intéressés, en remontant en quelque sorte leur parcours migratoire, à la situation de ces enfants migrants non accompagnés à Paris, où on a consacré un long rapport aussi que nous avons publié l'année dernière en juillet 2018 sur la question des évaluations de l'âge et du système de la protection de l'entrée dans le système de protection de l'enfance. Et assez logiquement, je dirais, nous avons poursuivi ce travail d'enquête sur la question du traitement des enfants migrants en nous intéressant aux Hautes-Alpes, qui est un des départements d'entrée pour ces enfants, pour voir comment, ce qu'il en était de leur situation et comment ils étaient traités par les différentes autorités, qu'il s'agisse des autorités policières ou des autorités départementales, puisque ce sont elles qui ont à charge l'évaluation de l'âge de ces jeunes.
Justement, il n'est pas inutile de rappeler le droit qui s'applique aux mineurs non accompagnés dès lors qu'un exilé se présente à la frontière en tant que mineur. Il n'est pas soumis aux règles d'entrée et de séjour des étrangers, donc il ne peut pas faire l'objet de mesures d'éloignement. C'est le droit commun de la protection de l'enfance qui s'applique, et donc ce sont les services départementaux d'aide sociale à l'enfance qui vont le prendre en charge dans le cadre d'un accueil provisoire, une période durant laquelle sa situation doit être évaluée. Alors, selon les chiffres du ministère de la Justice, en 2018, 40 000 jeunes sont entrés sur le territoire français, 17 000 ont été reconnus MNA, donc ça représente à peu près 42% des jeunes qui ont été reconnus mineurs. C'est un point que vous mettez en avant dans votre rapport. En France et dans les Hautes-Alpes, beaucoup se voient refuser la reconnaissance formelle de leur minorité à l'issue d'évaluations de l'âge défectueuse. Qu'est-ce qui est défectueux dans cette évaluation? Ce sont les services du département, le corps de métier?
Alors en fait, les enfants sont évalués lors d'entretiens d'évaluation, et c'est à ces entretiens-là que nous sommes intéressés dans toutes les interviews que nous avons menées avec les enfants migrants. Donc nous avons mené une soixantaine d'interviews auprès de ces enfants, plus d'interviews auprès des avocats, des médecins, des différents acteurs qui agissent auprès de ces adolescents. Et ce qui ressort de notre enquête, c'est que la manière dont sont menées les évaluations nous apparaissent très défectueuses, et ils sont menés dans un sens qui apparaît être à charge. En tout cas, c'est ce que les enfants disent, que l'évaluateur semble chercher les éléments pour essayer de rejeter sa minorité plutôt que de tout faire pour que tous les enfants soient bien protégés par les services de protection de l'enfance. Par exemple, dans un entretien, quels que soient les éléments qui vont être expliqués, exprimés par l'enfant, par exemple le fait de dire que pendant son parcours migratoire, il a travaillé, ce qui est le cas de millions d'enfants à travers le monde, ça va être retenu comme un élément contre lui, puisque l'évaluateur va lui dire, puisque tu as travaillé dans ton pays d'origine ou pendant ton parcours migratoire, c'est que tu es un majeur ou c'est un signe de maturité. Ou alors l'enfant va être évasif sur une date où il va y avoir dans son récit de parcours migratoire, qui sont des parcours chaotiques, il va y avoir sur un détail, il va se tromper de date ou il va donner deux dates différentes sur le passage de tel ou tel pays pendant son parcours migratoire. Et donc on va lui dire que puisqu'il n'est pas capable de sortir une date précise, ça va aller dans le sens d'une imprécision ou d'un mensonge et donc d'une forme de dissimulation.
Oui, mais vous,
ou alors il va vouloir être évasif, il va pas vouloir rentrer dans les détails d'abus qu'il aura subis en Libye. De très nombreux enfants, en fait, pratiquement tous les enfants que nous avons interviewés sont passés par la Libye et ont subi des abus atroces. Un enfant qui va apparaître comme étant réticent pour rentrer dans les détails de ces abus ou de ce qu'il a vécu en détention va être perçu comme une forme de dissimulation par l'évaluateur ou par l'évaluatrice. Et donc, on a un sentiment qu'il y a une forme de présomption de mensonge et que plutôt que de faire que le doute bénéficie à l'enfant, il va se retourner contre lui et contre les textes réglementaires, puisque dans la réglementation française, enfin dans les textes français, il est dit que le doute doit bénéficier aux jeunes et non pas se retourner contre lui. Et on a bien souvent le sentiment que c'est le cas à travers les procédures d'évaluation qui sont menées dans les Hautes-Alpes.
Mais justement, vous demandez aux évaluateurs aussi de tenir compte des effets du stress post-traumatique, comme vous l'avez évoqué, qui peuvent avoir des effets sur la mémoire, sur la concentration, sur l'expression des émotions. Mais c'est une notion qui est tout de même assez floue lorsque l'on fait une évaluation qui est extrêmement précise.
En fait, non. Les évaluations devraient être menées de manière pluridisciplinaire, ce qui apparaît comme étant assez peu souvent le cas, en tout cas à travers les interviews qu'on a pu mener. Et ces enfants-là arrivent en France au terme d'un parcours migratoire chaotique. Je veux dire, il y a des personnes, parmi ces enfants-là, il y en a qui ont passé plusieurs mois sur les routes. De très nombreux sont passés par la Libye. Enfin, je vous dis, je crois que sur les 60 interviews qu'on a faites, il y en a 58 qui sont passés par la Libye. Tous ceux qui sont passés par la Libye font état soit de détention, soit de travail forcé, soit de ce qui peut s'apparenter à des abus sexuels, soit de la traite. Ils arrivent en France dans un état d'épuisement et parfois de traumatisme. Il paraît hallucinant que pendant cette évaluation, on ne prenne pas en compte cette dimension psychologique. Je veux dire, c'est des enfants qui arrivent dans un état où ils sont très esquintés. Et le fait qu'il n'y ait pas de prise en compte de ce qui ressemble très souvent à des symptômes de post-traumatique, ça paraît absolument hallucinant. Et donc, des attitudes qui sont de l'ordre de ces symptômes d'une souffrance psychologique, plutôt qu'elle les désigne comme étant des individus particulièrement vulnérables qui auraient besoin particulièrement d'une protection, ce sont des choses qui vont se retourner contre eux parce qu'ils vont être un petit peu évasifs, parce qu'ils vont hésiter à revenir sur des traumatismes, parce qu'ils vont avoir une attitude qui dit qu'effectivement ils sont en souffrance psychologique. Donc c'est effectivement une dimension que nous mettons en avant comme une forte lacune dans la manière dont sont menées les évaluations de l'âge.
Et vous parlez aussi de la police aux frontières. La traversée à la frontière, c'est une question de chance avec la police. Ça dépend de leur humeur. C'est ce qu'a déclaré l'un des mineurs que vous avez rencontré. Vous écrivez également que plusieurs enfants se sont vus refuser l'entrée à la frontière dans les Hautes-Alpes alors qu'ils avaient des actes de naissance. Cela dépend du bon vouloir de chaque agent sur le moment. C'est ce qui est écrit sur le rapport. Humeur, bon vouloir, moment. La question migratoire est traitée de cette façon dans les Hautes-Alpes.
En tout cas, c'est ce qu'on documente sur la question des mineurs. Parmi les mineurs que nous avons interviewés, nous avons documenté des cas de mineurs qui ont été renvoyés sommairement par la police aux frontières françaises. Et d'autres, tous les autres, n'ont pas été en contact avec la police par appréhension de ces renvois sommaires, ce qui les pousse à traverser la frontière en prenant des risques énormes en traversant par les montagnes, par des parcours extrêmement escarpés, etc. Donc oui, il y a nous avons documenté des renvois sommaires Et oui, il y a une forme d'arbitraire. Il y a des jeunes qui sont passés par la frontière et qui ont eu un accès, enfin qui ont pu rentrer sur le territoire français. D'autres ont été renvoyés sommairement et d'autres sont passés finalement, ont passé la frontière après plusieurs tentatives pour éviter ces pratiques abusives ou pour éviter le risque d'une arrestation.
Vous avez rencontré
le troisième aspect, et juste pour en fait pour finir, parce qu'il y a une forme pour moi de triangle de pratiques abusives. Donc il y a des cas de renvoi sommaire à la frontière. Les enfants sont ensuite soumis à des procédures arbitraires d'évaluation de l'âge. Et le troisième angle, on va dire, de pratiques abusives, c'est le fait que les personnes qui portent secours aux personnes migrantes qui sont en difficulté dans la montagne, donc là, adultes comme enfants, font l'objet de harcèlement de la part des forces de police qui vont les contrôler X fois de leur papier d'identité ou qui vont les verbaliser pour une infraction mineure du code de la route. Et la manière dont sont menés ces différents contrôles d'identité ou ces verbalisations montre qu'il ne s'agit pas de vérifier l'identité de quelqu'un ou de s'assurer du bon respect du code de la route, mais plutôt d'entraver ou d'empêcher des actions de secours ou de recherche en montagne.
Et d'ailleurs, c'est l'une des recommandations que vous donnez à la préfecture des Hautes-Alpes et à la police aux frontières, c'est d'accepter l'âge déclaré d'une personne. Dernière question, procès de génération identitaire, procès des Neufs de Briançon. Cette question migratoire, aujourd'hui, dans les Hautes-Alpes, on le remarque, elle ne trouve pas d'apaisement, loin de là. Comment on peut y parvenir ?
Déjà, il y a une responsabilité des autorités françaises, qu'il s'agisse de la police aux frontières ou des autorités départementales, à appliquer et à respecter le droit. C'est-à-dire quand un adolescent se présente à la frontière en disant qu'il est mineur, il devrait être immédiatement dirigé vers les services de protection de l'enfance. Voilà, ça, je veux dire, c'est quelque chose de basique. Il n'y a aucune raison que des enfants qui se présentent à la frontière en se déclarant mineur, soit renvoyé sommairement de manière arbitraire. Et ça repose effectivement, c'est ce qu'on voit dans le rapport, sur l'humeur ou sur le bon vouloir des agents qui sont à la frontière. Deuxièmement, les autorités départementales, là pour le coup, ont fait un certain nombre de recommandations à l'égard du conseil départemental pour que les évaluations de l'âge soient menées dans les règles, c'est-à-dire de manière pluridisciplinaire, bienveillante et avec l'objectif de s'assurer qu'aucun enfant migrant non accompagné ne se retrouve privé de la protection à laquelle il a droit. Donc on fait une série de recommandations très détaillées. L'objectif de ce rapport, ça n'est pas seulement de visibiliser ces pratiques, mais c'est bien d'engager les différentes autorités à appliquer le droit et de s'assurer qu'elles délivrent leur mission de la manière la plus équitable possible vis-à-vis de ces jeunes gens.
Merci beaucoup Bénédicte Jeannerot, je rappelle que vous êtes la directrice France d'Human Rights Watch et cette table ronde qui a lieu ce soir, donc mercredi 11 septembre à 16h30 à Gap sur le traitement des enfants migrants non accompagnés dans les Hautes-Alpes. Merci beaucoup.
Merci à vous.